с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aujourd'hui, Ukraine, épisode 2. J'aimerais vous emmener clubber sur les plages de Crimée. Alors, suivez-moi. Ce soir, il y a un spectacle à admirer. C'est l'humanité qui s'est effondrée. Привет, товарищ! Salut à toi, camarade! Sautez dans votre solide Lada, cassette audio dans l'autoradio et quittons la République de Donetsk, direction le sud-ouest, la Crimée. Bienvenue au pays des parkas kaki et des moquettes à motifs. Je vous conseille de rouler de nuit, car vous n'êtes pas sans savoir que la région est bombardée et envahie. Depuis le 24 février 2022, la Russie a pénétré le sol ukrainien avec des chars, des lance-missiles, un contingent plutôt important d'hommes, constitué de l'armée russe régulière, de troupes du Donbass et de mercenaires tchétchènes. Ils sont entrés au nord par la Biélorussie, à l'est par Donetsk et au sud par la Crimée. C'est donc une véritable tenaille qui sert l'Ukraine, avec dans le ciel des missiles qui pleuvent à mesure que les chars avancent. Pour le reste, on est dans ce glacis qui caractérise si bien la guerre, le brouillard. Nous passons par les villes de Volnovakha, on évite Mariupol, actuellement assiégée par les Russes, on prend la tangente via Nikolsk, on traverse Berdiansk, Melitopol, Nikolaev pour enfin poser nos valises à Tchernomorski, en Crimée, au bord de la mer Noire. La Crimée, c'est un promontoire en mer Noire, une large péninsule à peine plus petite que la Belgique. À votre main droite, le golfe d'Odessa, avec plus loin la Turquie, et à main gauche, la mer d'Azov et le Caucase. On est ici au fond du labyrinthe méditerranéen. La mer d'Azov, c'est une mer enclavée dans la mer Noire, elle-même bloquée par la mer de Marmara avec le détroit des Dardanelles, qui donne sur la mer Égée, laquelle donne finalement en mer Méditerranée. Bref, de véritables petites poupées russes géographiques, retenez surtout que la mer Noire, c'est l'accès aux mers chaudes. Pour les Russes, c'est un peu leur petite Floride à eux. On y trouve de superbes plages de galets, des falaises, des montagnes, des criques et des stations balnéaires. Avec Yalta, le Malibu soviétique, on dit même de la Crimée qu'elle est la Riviera russe. Au carrefour des monts turcs, caucasiens, slaves et grecs, contrôler la région, c'est donc l'assurance pour les Russes de relier leur empire, de l'Europe au Caucase, s'asseoir sur la mer d'Azov et lécher la Turquie en mer Noire. Bref, ce soir, je vous emmène sur les plages de Crimée, donc, nous charger d'une électropop ukraino-kitsch, faire comme si toute cette guerre n'avait pas eu lieu, remonter un peu le temps et se balader des incursions tatares à l'effondrement du rêve socialiste, en passant, évidemment, par le Potemkin et les goulags. Tchernomorski, ça s'appelait Akhmetchit avant. Un nom turc, et c'est normal, ici, vous êtes dans le sud de l'Ukraine, devant vous, la mer Noire, le climat rappelle l'Europe du Sud. De l'autre côté de la mer, vous êtes en Turquie ou dans le Caucase. D'ailleurs, dans cette partie d'Ukraine, on sent qu'on n'est plus très loin de la Grèce. Beaucoup de noms de villes témoignent encore de l'influence grecque, Mélitopol, Mariupol, Simferopol, Sébastopol, bref, tous les « pols », référence à « polis », la cité. Si vous revenez au nord, on verra plutôt des grades, Stalingrad, Leningrad, Petrograd, on est chez les Russes. Comme je vous le disais dans notre premier épisode, l'Ukraine, c'est la porte de la steppe, un monde entre l'Orient et l'Occident. De quoi aussi rappeler qu'ici, en Crimée, il existe encore des Tatars. Un peuple turco-mongol d'anciens nomades arrivés par la steppe avec leurs chevaux, leurs étoffes de couleur et cette manière si particulière de chanter avec la gorge. Ils ont leur propre langue, le tatar de Crimée, une langue turque qui partage un même patrimoine avec les Gagaous d'Ukraine, les Bashkirs de Russie ou les Ouïghours de Chine. Une grande famille, donc. De base, ils avaient leur religion, le tengrisme, un chamanisme qui vénère le dieu du ciel bleu, la même religion que Gengis Khan. Mais ça, c'était avant qu'ils ne soient convertis à l'islam sunnite. Aujourd'hui, les Tatars de Crimée sont minoritaires en Ukraine. Mais il fut un temps où c'était eux, les rois de la jungle. Pendant très longtemps, les Tatars de Crimée ont sémé la terreur dans la région, Russes, Polonais, Lituaniens, Grecs, tout le monde les craignait. Ils participaient activement au commerce d'esclaves. Les caucasiennes et les polonaises s'en rappellent, ils appelaient même ça la moisson de la steppe. Avec leurs chevaux les plus rapides du continent, ils pillaient les villes, enlevaient les villageois, faisaient la guerre avec à peu près tout le monde. En Ukraine ou en Moldavie, ils ont même poussé jusqu'à Moscou et incendié la ville. Pendant plus de 600 ans, et tous les 30 ans au moins, vous pouviez être sûr de voir votre village se faire cramer par ces cow-boys turco-mongols. On parlait à l'époque d'invasion tartare, référence à l'enfer grec, le tartare. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot que pour désigner un plat de viande crue servi avec des frites. Les tatars de Crimée, c'est donc un peu les vikings du coin. C'est d'ailleurs pour ça que les empereurs russes vont engager des mercenaires pour les harceler, leur faire la guerre. Ces mercenaires, ce sont les cosaques, et les cosaques vont progressivement remplacer les tatars. Sauf que cette fois, ce n'est pas un peuple indépendant, mais des mercenaires pour un empire, la Russie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les cosaques qu'on engage, mais Wagner. Il semblerait que la région ne s'est jamais vraiment débarrassée ni de ses mercenaires, ni de ses empires, ni de ses barbares. Les Tatars ne seront plus une menace après le XVIIIe siècle, soit au même moment où l'Angleterre commence sa révolution industrielle. Ce qui permet de voir qu'en termes de pacification du territoire, c'est deux salles, deux ambiances. En Russie, on appelle cette période le joug tatar, c'est un peu la préhistoire de leur civilisation, la période d'avant les empires, quand la steppe était encore en mouvement. Et c'est pour ça que la culture russe peut nous sembler si lointaine, si différente. Sur cette large bande de terre qui va de la Crimée à Moscou, pendant très longtemps, ce furent des nomades, des chasseurs-cavaliers qui faisaient la loi. Des sociétés qui ne s'établissaient pas et ne pratiquaient pas ou très peu l'écriture. Les premiers textes n'arrivent qu'au 9e siècle, ça veut donc dire que la région n'a pas connu de renaissance, pas d'humanisme ni de réforme, comme en Europe de l'Ouest. Voilà pourquoi il y a tant de folklore, de contes populaires, de légendes en Russie. Sa culture est encore imprégnée d'oralité, de mysticisme et de chevauchée dans la steppe. Ce n'est pas mieux ou moins bien, ce sont juste des sociétés autres, avec des références et un patrimoine très différent. L'histoire des Tatars de Crimée se finit mal. Le 18 mai 1944, alors que l'armée rouge vient de reprendre possession de l'Ukraine, Staline fait déporter 140 000 Tatars de Crimée, direction les goulags de Sibérie ou de l'Ouzbékistan. Mais pourquoi a-t-on fait déporter les Tatars ? Eh bien, parce que les Tatars auraient collaboré avec les nazis. C'est vrai, mais enfin, c'était pas les seuls. Fun fact, ce sont presque tous les peuples soviétiques qui ont collaboré avec les nazis, de près ou de loin. Non, la vérité, c'est que l'URSS de Staline déplace des populations et veut russifier l'Ukraine, comme quoi, déjà à l'époque, la dénazification servait les intérêts du Kremlin. Soit les Tatars ne sont pas très bien reçus en Ouzbékistan ou en Sibérie, dans les goulags, on n'en attendait pas autant, ils n'étaient pas prêts, les conditions de vie y sont misérables, au point que 45% des déportés meurent. Ils ne pourront retourner en Crimée que dans les années 80, du moins ce qu'il en reste. D'ailleurs, les Tatars ne furent pas les seuls à subir ce nettoyage ethnique. Les Balkars, les Ingouches, les Kurdes, les Tchétchènes ou les Grecs pontiques, ces premiers Grecs installés en mer Noire, tous ces gens furent pareillement déportés au goulag. Voilà ce qui se passe quand l'humanité descend son cheval pour dresser des clôtures. Sur ces belles paroles, je crois qu'il est temps de vous passer notre face A. Nous sommes à Tchernomorski, toujours, en Crimée. En 1988, dans une Ukraine en paix, des jeunes gens se photographient sur les plages de Galée et moi, j'attends un bateau qui devrait arriver dans la baie d'Odessa. Thank you. On se retrouve en 1905, au large d'Odessa, pas loin de la Crimée. Les Tatars ont été remplacés par les Cosaques et le Khanat de Crimée, leur royaume, a été Anschluss par l'Empire des Romanov. On va pas se le cacher, l'Empire russe, en 1905, ce n'est plus vraiment ça. Le pays est traversé par d'importantes vagues de contestation, étudiantes d'abord, libérales ensuite. Il s'agit de réformer le vieil empire, de quoi rappeler aussi que les Russes avaient déjà assassiné leur tsar 20 ans avant. Pour Nicolas II, c'est donc un petit peu chaud. Mais c'est surtout la contestation paysanne et ouvrière qui vient mettre le feu aux poudres. A l'époque, aucune législation sociale, la majorité de la population vit dans des conditions déplorables. En 1904, alors que les caisses sont vides et que le mécontentement gagne à peu près tout le monde, le tsar décide d'attaquer le Japon. Mais pourquoi ? Eh bien surtout, pourquoi pas ? C'est une petite nation face à la Grande Russie, la victoire soudera le peuple derrière son empereur. Eh bien, tenez-vous bien, mais le petit Japon s'avère être un tigre d'acier qui va véritablement mettre la Russie à genoux. Sur le plan international, la Russie est humiliée, la guerre contre le Japon coûte cher, et en plus, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une impasse. Toute ressemblance d'ailleurs avec des événements récents serait évidemment fortuite. Il n'empêche, avec la guerre, même l'armée commence à douter de son empire. En mai 1905, la flotte russe perd la bataille de Tsushima, un massacre. On se retrouve avec des bateaux à la dérive, sans officiers, c'est vraiment la débandade. Du coup, la flotte russe se mutine. Bref, vous l'avez compris, mais en cette année 1905, personne en Russie n'est vraiment content. Même l'aristocratie commence à douter des capacités du tsar pour assurer leur sécurité. Le 17 février 1905, le grand-duc Serge est assassiné. Un attentat à la bombe fait exploser sa voiture. À deux pas du Kremlin, on entend un homme hurler « Abat le tsar, abat le gouvernement !» Vive le parti socialiste révolutionnaire. Alors, pour calmer tout ce beau monde, on autorise les citoyens de l'Empire à se rassembler devant les villages ou les quartiers juifs. On fait monter la colère et on laisse soulager tous ces braves gens dans le pillage, la torture, le meurtre, le viol et l'incendie. On appelle ça les pogroms, rien de tel pour cimenter une nation. Mélitopol, Simferopol, Kishinev, mais aussi Odessa ou Kiev, pas une ville de l'Empire n'échappe à son petit pogrom. Mais même ça, pour sauver l'Empire, ça ne marche pas. Le 1er février 1905, 200 000 personnes sont rassemblées à Saint-Pétersbourg. Ils avaient été appelés par le pope Gabon, aumônier du tsar, à manifester pacifiquement. L'idée, c'était d'organiser une manifestation de soutien au tsar pour lui montrer que le peuple était de son côté, mais qu'il avait quand même des doléances. Faut bien se rendre compte, c'était pas une manifestation d'antifa, c'était des gens du peuple, des familles venues avec leurs enfants, des catholiques avec en tête de cortège des croix et des icônes. Eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce qui est sûr, c'est que les gardes du palais d'hiver, voyant arriver cette foule compacte, se sont mis à tirer sur tout le monde. C'est un bain de sang. L'histoire baptisera cette journée de Dimanche Rouge. Dans tout l'Empire, c'est la consternation. Même les plus modérés sont choqués. À Saint-Pétersbourg, en solidarité avec les victimes, on décide de fermer les opéras, les théâtres et d'annuler tous les spectacles, ce qui, hors période de pandémie, ne se fait jamais. En juin de la même année, alors que l'Empire est à feu et à sang, que des grèves paralysent tout le pays, il y a un petit cuirassé qui mouille en mer Noire. On l'appelle le Potemkin, et le Potemkin vient de recevoir son ravitaillement, mais un marin remarque des asticots dans la viande. Ce qui n'est pas très frais, vous en conviendrez. C'est la goutte qui fait déborder le vase, alors tout le monde se mutine, les officiers passent par-dessus bord, les marins élisent un comité du peuple qui prend la direction du bateau, lequel décide de se diriger vers Odessa, où la ville est en proie, encore une fois, à des grèves et des manifestations très violentes, presque des émeutes. Les marins hissent le drapeau rouge, ça y est, le mythe du cuirassé Potemkin est né. Ils veulent s'entretenir avec le parti ouvrier local, mais ça patine, il faut dire que les marins ne sont pas très politisés, et pendant tout ce temps perdu, eh bien les Cosaques, encore eux, sont arrivés et ont massacré tout le monde. La ville d'Odessa est exsangue, ils organisent un petit pogrom au passage, de quoi nous faire presque regretter les incursions tatares. 1905, au final, c'est une occasion manquée, la Crimée devient d'abord République tatare indépendante de l'Empire, puis définitivement soviétique, après une non moins sanglante guerre civile, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, vous l'avez compris, il s'en est passé des choses dans cette crique. La Crimée a connu le monde grec, les incursions tatares, l'Empire russe, les Cosaques évidemment, mais aussi les révolutions et puis l'Union soviétique. Et c'est pour cette raison que je vous laisse désormais avec la phase B de cet épisode, un disque de 1990, la dernière année du rêve socialiste. Le titre, Butcho Boudet, l'artiste Roussilla. Alors tous à vos survêtes de sport et vos coupes mulets, Butcho Boudet par Roussilla en 1990.
Oh,
Nous sommes à Pharos, au sud de la Crimée, le 19 août 1991. L'été est chaud. Sur les plages, on laisse tomber les chapkas, les kalaches, on enfile un bikini, on déguste un Moscow Mule, on savoure le dernier été socialiste. Paradoxalement, ce sera aussi le dernier bel été du siècle. Bref, c'est la canicule en Crimée, la mer d'Azov est noire de monde, c'est la joie, l'insouciance de l'été, et pourtant, l'Union soviétique va s'effondrer. Le secrétaire général du Parti communiste, Mikhail Gorbatchev, est en vacances à Pharos, justement. Une jolie petite datcha, le point le plus au sud de la Crimée, très bon choix, c'est là qu'il y fait le meilleur. Gorbi, c'est le secrétaire général du Parti communiste, donc c'est le boss. Il est à la tête du Politburo, l'organe du parti qui guide les grandes lignes de l'Union soviétique. En gros, tout dépend de lui. Le 19 août, donc, au petit matin, alors que Gorbatchev avale son petit déjeuner habituel, vodka baklava, il allume la télévision et là, l'impensable se produit. Un flash spécial venu de Moscou et diffusé dans toute l'Union annonce la destitution du secrétaire général, M. Gorbatchev, pour, je cite, « raison de santé ». L'écran de la télé devient noir, on entend le final du lac des cygnes de Tchaïkovski. En langage soviétique, ça veut dire que vous êtes mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire, ce qu'il se passe, c'est l'Union soviétique qui s'effondre. À Moscou, c'est le bordel. 360 chars, 42 véhicules blindés, 4000 hommes pénètrent dans la ville. Ils prennent la télévision, le parlement, c'est littéralement un coup d'État. Gorbatchev devait signer le lendemain un traité donnant plus d'autonomie aux républiques socialistes, marquant ainsi la fin de l'Union en tant que puissance centrale. Or, il faut rappeler quand même qu'après la chute du mur de Berlin le 17 mars 91, 76% des soviétiques s'étaient déclarés favorables à la survivance de l'Union, et ce, dans l'unique référendum de l'histoire soviétique. C'est donc tout naturellement qu'une frange du parti ne s'est pas laissée faire, les plus conservateurs et unionistes s'organisent pour sortir Gorbatchev. Mais hélas, ils ne pourront rien faire. L'époque n'était plus à la fédération, tout partait à volo. On va pas se le cacher, en 89, deux ans avant, les pays baltes déclaraient leur indépendance dans une manifestation pacifiste jamais vue dans l'histoire, filmée par toutes les télévisions du monde entier et où plus de la moitié de la population avait participé. Pareillement, tout le Caucase est en feu, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Hongrie aussi, la Pologne se soulève, la Moldavie déclare son indépendance. Même le Parlement de Russie songe à proclamer l'autonomie. Le socialisme, ça semble donc un peu foutu. La chute du mur de Berlin l'avait annoncé au monde entier. Les nationalismes sont revenus en Europe. Ils vont même réunifier l'Allemagne. Le coup d'État ne prend donc pas. La population moscovite se met à remplir les rues. Ils forment une chaîne humaine qui empêche les soldats soviétiques d'avancer. C'est du jamais vu. Un certain Boris Eltsine, président du Parlement de Russie, profite de l'agitation pour grimper sur un char et haranguer la foule. La suite, c'est une autre histoire, mais vous la connaissez. Bref, ce 19 août 1991, alors que Gorbatchev est en Crimée, c'est la mort de l'Union soviétique qui est actée. Et donc ce jour-là, le 19 août, Gorbatchev est pris entre le marteau et la faucille. À sa droite, une jeunesse bicurieuse, attirée à la fois par les libertés du libéralisme et les fiertés du nationalisme. Et à sa gauche, un parti communiste qui n'a pas digéré la mort de Brejnev. Des apparatchiks excités, conservateurs, opposés aux réformes de Gorbatchev. Et tout ça, ça prend forme devant ses yeux. Et c'est un comble que le secrétaire général du Parti communiste apprenne la mort de l'Union soviétique sur le même littoral où les marins du Potemkin, 86 ans plus tôt, avaient commencé la révolution en hissant un drapeau rouge. Vassili Starodoubsev, alors président de l'Union agricole de l'URSS et qui avait participé au putsch de août 1991, avait raconté au Figaro les raisons de cette démonstration de force. Je cite... Ce que nous avions planifié, ce n'était pas un coup d'État, mais une tentative de respecter la parole du peuple qui s'était exprimé lors du référendum, de s'opposer aux traîtres qui s'étaient frauduleusement emparés de notre pays et à toutes ces forces qui préparaient un changement de régime. À propos des opposants au putsch, Starodoubsev dira qu'ils étaient des ivrognes et des drogués, diligentés par les États-Unis. Mon regret, conclut-il, est de ne pas avoir réussi à sauver mon pays. Dans une de ses dernières interviews publiques, quand on lui posait la question « Quel est votre plus grand regret ?», Gorbatchev répondait aussi, non sans émotion, « La chute de l'Union soviétique ». Et quand on lui demande ce qu'il aimerait comme épitaphe, il répond, je cite, « On aura essayé ». Et c'est toute la tragédie non seulement des peuples de l'ancien bloc de l'Est, mais c'est surtout la tragédie du socialisme. Le rêve de 1917 finit, terminé, comme une parenthèse, un amour de vacances qui a duré un peu trop longtemps. et toutes les fêtes d'Empire sont un peu tristes. La dislocation d'une fédération, c'est toujours la promesse d'un millénaire de guerre. Sauf qu'ici, ce n'était pas n'importe quel empire, j'en ai déjà parlé, c'était l'Union soviétique, le plus grand empire du monde, construit sur une utopie, un rêve, qui s'opposait à tous les cauchemars de la Terre. Alors c'est vrai, le bilan soviétique est très contrasté, on va pas se mentir, l'Union mentait, volait, déportait, tuait, incendiait, mais enfin, c'est pas parce qu'on a raté une fois la cuisson d'une crêpe qu'on va s'interdire de fêter la Chandeleur. Nous avons besoin de grands récits, ça même votre président Macron l'a dit. Alors au lieu d'aller chercher ceux de l'Antiquité ou de la Belle Époque, au lieu de se gargariser d'espace et de transhumanisme, au lieu de noyer nos petites personnes dans le luxe et la décadence, sachez qu'il existe un grand récit, intemporel, éternel. Il n'est lié à aucune race, aucune croyance, sinon celle d'un plan quinquennal. Alors c'est vrai, il y a un peu de fantasme derrière tout ça, mais c'est normal, tout idéal puise son inspiration dans le fantasme. Ainsi il en est de l'histoire de la politique et de notre humanité. En tout cas, ce fantasme, il a commencé ici, en Crimée, quand on a vu les marins du Potemkin hisser le drapeau rouge. Moi, je vous laisse définitivement pour ce soir avec Provodi, une chanson pré-soviétique qu'on aurait pu entendre lors des manifestations de 1905. Bonne nuit, Tazvidanie Tavarich.
Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты в лонёк во солдаты.
Не ходил бы ты в лонёк во солдаты. В Красной армии ж мы печай найдутся, без тебя большевики обойдутся.
Поклонился всей родне у порога, не скулите вы по мне ради Бога.
Не скулите вы по мне ради Бога.
Будь такие все, как вы, ратозеи, чтоб осталось от Москвы, от России.
Чтоб осталось от Москвы, от России. Все пошло на старый лад, на Италию.